Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, vendredi. C'est bien sûr la libre antenne dans le journal des auditeurs. C'est vous qui faites le sommaire, c'est vous qui choisissez le sujet sur lequel vous souhaitez vous exprimer. Je peux déjà vous dire que nous reviendrons un peu sur les sujets de cette semaine, notamment l'élection présidentielle au Togo et ce coup chaos de Faure Gnassingbé. Nous évoquerons la brouille entre la France et le Cameroun et surtout les propos d'Emmanuel Macron qui affirme faire pression sur Paul Biya. Nous parlerons d'une autre brouille diplomatique déclenchée depuis quelques jours, c'est celle entre Paris et Bamako. L'ambassadeur du Mali à Paris avait déclaré lors d'une audition au Sénat que certains militaires français se comportaient mal dans les quartiers chauds de Bamako. L'ambassadeur a été rappelé. Alors, pour participer, nous faire part de vos commentaires sur le sujet de votre choix, appelez-nous au 33 1 55 07 58 00. 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires sur WhatsApp ou sur la page Facebook. J'en lirai quelques-uns, bien sûr, durant l'émission. Mais avant cela, comme de tradition, on se tourne sans plus tarder vers le répondeur d'Africa Radio pour écouter une sélection de vos messages.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Ma très chère Hartmann, bonjour. Le coup d'état de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire était constitué de deux phases. La première phase, c'était la phase de dénigrement du pouvoir d'Abidjan pour faire en sorte qu'un coup d'état soit accepté par l'opinion. Et la deuxième phase, bien sûr, c'était la phase militaire qui a été déjouée par nos forces de l'ordre. Je leur dis bravo. Eh bien, la première phase, c'est-à-dire la phase de dénigrement, continue. En début de semaine, Guillaume Soro a envoyé des brigands pour agresser physiquement notre ministre de l'Agriculture en la personne de M. Adjumani. Moi, je condamne ces actes. Moi, j'ai dit au gouvernement ivoirien de faire très, très attention parce que Guillaume Soro sait qu'il ne peut pas gagner dans une élection démocratique en Côte d'Ivoire. Donc, il va toujours chercher les voies et moyens pour nuire au pouvoir. Faites beaucoup attention. Idriss, bonne journée.
Bonjour Stéphanie. Bonjour de Télé-Africa Radio. Bonjour l'Afrique. Stéphanie, aujourd'hui, en Guinée, il y a des situations politiques graves. Enfin, il y a toujours des situations de crise politique en Guinée. Alors, ça, on le sait. C'est comme d'ailleurs un peu partout en Afrique. L'histoire de modification de constitution, toujours dit, ça ne sert à rien. Parce que si vous regardez partout là où on a modifié la constitution en Afrique, il n'y a eu aucun changement sur la vie sociale, économique, ni même politique de ces pays. Rien. C'est-à-dire que la politique est toujours restée la même, avec les mêmes personnes, et le côté social, rien du tout n'a changé. Donc le quotidien des populations est toujours dans vraiment comme tel, ça n'a pas bougé, stagné comme une mardeau. Et après, la question est posée, pourquoi modifier ces constitutions? Alpha Condé, aujourd'hui, il veut aller jusqu'au bout. Moi, je suis désolé, quand on pense que non, il va plus reculer, de toute façon, le but c'est ça. Quand il veut ça, ça veut dire qu'il veut rester au pouvoir. Et le fait qu'il dise à ses amis de la CDAO et l'Union africaine de ne pas venir aller chez lui en Guinée pour en parler, ça veut dire qu'il a pris position. Mais après, je vais dire pourquoi c'est maintenant que la CDAO en question et l'Union africaine prennent cette initiative pour aller voir Alpha Condé.
Bonjour Africa Radio. Bonjour chers auditeurs et auditrices d'Africa Radio. J'appelle aujourd'hui pour encourager mes frères guinéens. Car l'armée guinéenne, ils sont en train de se mêler dans la politique. On a appris que l'état-major de la Guinée, il a dit que le jour du référendum, ils vont descendre dans la rue pour empêcher les citoyens de faire ce qu'ils veulent. Donc je dis à mes frères guinéens, ne vous laissez pas intimider par personne. Ne vous laissez pas intimider par personne. Faisez comme le Burkina Faso. Soyez comme le Burkina B. coûte que coûte, que les projets d'Alpha Condé soient échoués. Vraiment, je vous encourage, et toute l'Afrique, et dernier vous, soyez forts. La Guinée appartient aux Guinéens. Il n'appartient pas aux militaires, ni à Alpha Condé et ses clans. Je vous remercie.
Oui, bonjour, Africa Radio. J'interviens ce matin sur votre antenne pour alerter les autorités africaines par rapport au virus coronavirus. Je viens d'apprendre qu'il y a eu un cas au Nigeria. Comme d'habitude, nos dirigeants africains, ils réagissent après. Donc, je lance un appel pour qu'ils puissent prendre des précautions. Vraiment des précautions. Tout citoyen italien qui rentre en Afrique, qu'il soit immédiatement accompagné dans un hôpital, et faire des prélèvements pour voir si toutefois cette personne n'a pas le virus. Parce qu'il ne faut pas qu'on prenne des risques. Le cas qui vient d'être vu au Nigeria, c'était un Italien qui résidait au Nigeria, qui est parti à Naples et de retour, il a contacté le virus. Donc vraiment, je lance un appel à tous les citoyens africains, surtout les autorités africaines, de prendre les mesures nécessaires pour faire face à cette épidémie. Vraiment qu'ils n'attendent pas la dernière minute pour réagir.
Amis du Zidia, bonjour. C'est Toutankhamon. Bon, et donc aujourd'hui, je voudrais réitérer ce que je voulais dire le vendredi passé et concernant le coronavirus. Je voudrais donc inciter les chers amis africains à la prudence et surtout aussi à la propriété. Beaucoup de nos amis ne se lavent pas les mains quand ils sortent des toilettes, ainsi de suite. Donc voilà. Je crois que si Ebola a fait beaucoup de rage au Libéria, en Guinée, ça autour, c'était parce qu'il y avait aussi un problème de propriété, je crois. Et encore, je suis le premier à le dire, je voudrais le revendiquer. Je voudrais dire au curé, au prêtre, qu'il ne donne plus l'hostie, la communion, et surtout dans la bouche, quand les gens ouvrent grandement la bouche comme ça, ou même avec les mains, là, le contact là, de plusieurs milliers de personnes dans une seule église, ça fait un grand risque de contamination. De même que je souhaite qu'il n'y ait plus de signe de paix là. La paix du Christ, Pax Christi. Donc que les gens ne se tendent plus les mains. Alors, c'est plus que ça, bon, parce que Dieu connaît un peu l'amour dans nos cœurs, ou bien la volonté que nous avons de nous aimer. Mais sinon, des actes concrets, physiques, là, ça ne vaut plus rien. Bon, voilà. Merci. C'était ma petite contribution. Salut.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Vous pouvez désormais intervenir en direct dans le journal des auditeurs en composant le 33 1 55 07 58 00. Aujourd'hui, c'est la libre antenne. Dans quelques instants, nous reviendrons, nous parlerons plutôt du Togo et les résultats de l'élection présidentielle. Mais on ouvre cette émission avec un mot sur un événement qui aura lieu le samedi 7 mars prochain. Ce sera la veille de la journée de la femme. Un événement organisé avec le RTMF, c'est le regroupement des travailleurs maliens de France, une association historique bien sûr. Et pour en parler, j'accueille Marianne Dulac. Marianne Dulac, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Merci d'être avec nous, Marianne. Alors, cette journée du samedi 7 mars aura lieu à la mairie de Bondy, c'est en Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne. Et elle sera consacrée à la célébration des luttes pour l'émancipation des femmes africaines. En quoi consistera cette journée, Marianne ?
Alors, je tiens à préciser, c'est la célébration des luttes de l'émancipation pour les luttes des femmes africaines. Mais c'est une célébration qui se veut universelle et sans frontières. Donc, dans cette célébration-là, ce sera une journée qui débutera vers 15h30 et on ira jusqu'au-delà. Il y aura au programme des expositions d'art africain, des séances de dédicaces, des ateliers de cosmétiques, des conférences débats et des animations. Et ça se terminera par une soirée dansante, un repas et une soirée dansante.
Mmh. Vaste programme très basé sur la culture et en même temps l'occasion de célébrer toutes les femmes, si j'ai bien compris.
Exactement. C'est l'occasion de célébrer toutes les femmes, particulièrement donc les femmes de la diaspora, mais nous accueillerons toutes les femmes. C'est une célébration qui se veut universelle et sans frontières, je le répète encore. Donc nous accueillons tout le monde. Nous voulons vraiment faire participer à au programme mondial cette année de la célébration des femmes. Il y a un thème universel et pour nous, notre participation à ce thème universel-là sera le 7 mars avec la mairie de Bondy. Donc dans leur salle des fêtes, nous organisons cette soirée-là.
Cet événement. Exposition, séance de dédicace, atelier de cosmétiques, conférence, débat, networking, c'était du réseautage comme on dit, puis dîner et soirée dansante. Marianne Dulac, si on veut participer, comment fait-on si on veut venir?
Alors, si on veut participer, on peut s'inscrire directement pour le dîner. Donc le dîner, par contre, on tient à préciser que ce sera uniquement sur inscription en s'inscrivant sur contact@pidalconseil.com ou alors on peut contacter le 06 59 66 37 44.
Vous pouvez redonner le numéro?
06 59 66 37 44.
Et c'est bien sûr en France, pour nos auditeurs qui nous écoutent.
C'est ça.
Abidjan, on les salue. Merci beaucoup, Marianne, je rappelle. Rendez-vous donc.
Merci beaucoup, Stéphanie. Bonne journée.
Bonne journée à vous. Rendez-vous donc, c'est ce samedi 7 mars, à partir de 15h30, heure de Paris, à la mairie de Bondy. C'est en Seine-Saint-Denis, bien sûr, et c'est en banlieue parisienne. Et je rappelle, l'adresse, le contact, l'adresse mail pour vous inscrire au dîner, c'est contact@tidaleconseil.com. Tidal, T-I-D-A-L-E, conseil sans S.com. Voilà. Bonne journée à vous, Marianne Dulac, et merci beaucoup pour ces informations. On poursuit cette libre antenne avec une autre actualité. Il s'agit de l'élection présidentielle au Togo. On va se diriger tout de suite vers Lomé, retrouver Kondi. Kondi, bonjour.
Oui, bonjour, madame.
Bonjour Kondi.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Africa.
Bonjour Kondi, bienvenue dans le journal des auditeurs. Alors, les résultats de la présidentielle ont été donnés presque moins de 24 heures après le scrutin. Selon ces résultats, Fornia Simbe, président sortant, gagne au premier tour avec 72% des voix. Agbeyome Kodjo, ancien Premier ministre, arrive deuxième avec environ 18% des suffrages, des résultats qui ont été contestés par l'opposition. Et dans un communiqué, l'ambassade des États-Unis au Togo se dit préoccupée par les efforts des observations limitées et suggère aux autorités togolaises de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. De son côté, Mgr Potreau est appelé à manifester aujourd'hui. Kondi, quel regard vous portez sur cette élection présidentielle et sur les résultats?
Oui, alors, avant tout, je veux signaler que les élections sont une honte au Togo et les résultats sont proclamés. Qui devaient être proclamés en fait moins que. Déjà, c'est une course en avant pour le régime. Les élections au Togo ont été un sens pour le. C'est-à-dire que nous, on a le.
Kondi, je suis désolé. Votre voix se robotise, on va pas pouvoir vous garder longtemps, parce que on vous comprend pas, mon cher Kondi, je suis navré. Mais dites-moi, il y a eu un appel à manifester aujourd'hui. Est-ce que d'après vous, il va être suivi?
Oui, la manifestation a été annulée parce que ils ont organisé un arsenal de répression et donc. Encercler la maison de Agbeyome Kodjo, de Mgr Kodjo.
On a bien compris que selon vous, selon vos informations, Kondi, vous disiez que les maisons d'Agbeyome Kodjo et de Mgr Kodjo avaient été encerclées par les forces de l'ordre. Et en effet, les autorités ont interdit cette manifestation annoncée par Mgr Kodjo. Selon Christian Trimois, ministre des Droits de l'Homme, la manifestation prévue par l'opposition n'a pas respecté les procédures. Elle n'est donc pas autorisée. Merci beaucoup, Kondi. On essaiera peut-être vous joindre un peu plus tard. Tu voulais réagir au sujet du Togo, 33 1 55 07 58 00. On va écouter William. William, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie, bonjour de Télé-Afrique, la radio, bonjour l'Afrique.
Bonjour William. Oui. Vous avez entendu Kondi qui lui parlait de répression. Il contestait plutôt les résultats de l'élection.
Oui, bon, la répression, c'est pas nouveau. De toute façon, c'est comme ça partout. À un moment donné,
Et voilà, il y a toujours cette répression. Moi, en fait, mon problème, c'est de savoir. En fait, il y a deux choses. Sonia Simbe, il n'avait jamais franchi le cap des 72% durant toutes ces élections qu'ils l'ont réélu. Et là, il a pu atteindre 72%. Eh bien, Abdoulaye Kodjo, qui avait fait 1% en 2015, arrive à faire 18%. Donc, il y a deux choses. Moi, je me suis beaucoup intéressé sur ça. On parle de la fraude, oui, parce que ça, on est tous d'accord, souvent, c'est comme ça. Mais les 18% que lui, il a obtenu, le président Kodjo, qui est en train de revendiquer la victoire, qui est celui qui a gagné, lui, est-ce qu'il est sûr que c'est vraiment lui-même que les Togolais ont choisi, en lui donnant ne fût-ce que ce soit 18% plutôt, en sachant que, parce que comme j'avais fait un message dernièrement sur le compte WhatsApp, en sachant qu'en 2015, il a fait 1%. Et hormis ça, il a servi le pouvoir de Yadema Père. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Il a servi ce pouvoir en tant que Premier ministre. Donc, il connaissait toutes les manœuvres qui se passaient au moment de Yadema Père. Donc, il s'est retiré de la mouvement présidentiel pour être opposant. Et les Togolais qui disent que plus jamais la famille Yadema, je pense que quand on dit plus jamais la famille Yadema, on doit prendre tout ce monde-là qui était autour ou qui est autour de la famille Yadema. Donc ça veut dire que M. Kodjo ne devait pas gagner la confiance des Togolais, à moins qu'il ait Togolais famille de ce côté-là, ou bien que lui, il a travaillé avec la famille. Parce que Stéphanie, on peut faire l'opposition, oui.
Dans un régime qui a installé plusieurs décennies, beaucoup de gens ont travaillé avec ce régime.
Oui, parce que le problème, c'est celui-là, Stéphanie. Quand on veut un changement, moi aujourd'hui, William Thomas Malanga, je ne peux pas aller voter quelqu'un si je traite celui qui est...
Là, par exemple, au Congo, leader. Vous n'auriez pas voté pour Jean-Marie Michel Mokoko?
Jamais du tout.
Ah bon.
J'allais même en venir, Stéphanie.
Au Burkina, par exemple, Marc-Christian Caboret.
Là aussi, c'est une erreur. Puisque
en Angola, oui, Joao Lorenzo.
Le réseau même, ce qu'il est en train de faire là, il veut jouer un peu au jeu pour... Après un jour, il va sortir d'autres griffes. Tout ça, en fait, c'est des manœuvres. Pareil en Mauritanie, avec celui qui est en train de tenir tête à celui qui l'a fabriqué. Donc, voilà, donc c'est ça le problème, Stéphanie. Donc, on peut dire, s'il y a eu des Togolais qui ont donné leur voix au Kodjo, ça veut dire qu'il y a eu d'autres Togolais qui ont compris que Kodjo, c'est pas la peine. Jean-Pierre Fabien est sorti avec 4%. Ça veut dire qu'il s'est parti à côté. Et donc, eux aussi, d'un côté, ils ont dit, bon, on continue avec la famille. Donc, Stéphanie, il faut que nous nous posions des bonnes questions pour que nous trouvions des bonnes réponses, au lieu de parler, de dire beaucoup de choses pour rien. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Togo, si Sonia Simbe a brigué ces quatre mandats, les artisans de sa victoire, fraude ou pas, c'est l'opposition, Stéphanie, il faut le reconnaître. De ces 14 mandats, comment ils ont manifesté, on était tous sûrs qu'ils allaient renverser la tendance. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé, Stéphanie? Comme a dit Christian, comment on l'appelle, le ministre de droits de l'homme
Monsieur Christian Trimoua.
Je l'admire beaucoup parce que moi, je ne le connais pas et on ne se connaît pas, mais je l'admire beaucoup parce que d'abord, c'est un bon
communicant.
Il communique tellement bien et bon. Il dit les choses clairement.
C'est très
donc,
clair.
Du coup, il a dit que l'opposition a fait campagne pour eux. Ils ont passé tout
merci, leur temps. Merci, William. Oui. Merci beaucoup, William. On a bien compris, William, un peu ce que vous disiez. Finalement, voilà, c'est l'opposition qui a été l'artisane de la victoire de Fornia Simbe au Togo. Merci beaucoup, William, de votre participation. 33 1 55 07 58 00. Dans un instant, vous pourrez réagir à cette brouille entre Paris et Bamako. L'ambassadeur du Mali en France a été rappelé à Bamako. Thiébilé Dramé, ministre des Affaires étrangères, a vite pris un avion pour rassurer ses partenaires français. Après les propos de l'ambassadeur, qu'en pensez-vous? Si vous souhaitez réagir, appelez-nous dès maintenant au 33 1 55 07 58 00. Avant cela, on va dire un mot d'une petite brouille qui était peut-être plus légère. C'était entre Yaoundé et Paris. Emmanuel Macron, il y a une semaine, a eu ses propos en disant qu'il mettrait la pression sur Paul Biya, qu'il avait déjà mis la pression sur Paul Biya concernant Maurice Kamto, et qu'il la mettrait concernant les nombreuses atteintes aux droits humains. Au Cameroun, des propos qui n'ont pas beaucoup plu à Yaoundé, où une manifestation a été organisée. Certaines opinions en public, opinions africaines, parlent d'ingérence. Francis, bonjour.
Bonjour, Stéphanie.
Bonjour, Francis.
Bonjour, les auditeurs d'Africa Radio.
je refaisais un petit rappel. Vous, vous n'avez pas pu réagir à l'émission. Vous vouliez réagir et vous dites finalement, c'est Paul Biya hein, qui permet qu'on fasse pression ainsi sur lui.
Absolument. Alors, j'ai un petit rappel de l'histoire. C'est la roue de l'histoire qui tourne. Tout le monde se souvient. Hein. Alors, sinon, tout le monde pourrait aller sur Internet et retrouver cette interview que M. Biya avait donnée aux sorties d'une audience avec le président Mitterrand sur le perron de l'Élysée, où il s'était présenté comme le meilleur élève de la France. Et donc, tous les médias avaient repris, les mêmes qui critiquent aujourd'hui le fait que le président français ait porté une analyse froide sur la situation du Cameroun, et s'était vanté de dire que Biya est le meilleur élève. Écoutez, dans une situation élève-professeur dans laquelle Biya s'est mise, il s'est mis lui-même dans une situation de verticalité. Il n'y a pas d'égalité entre un professeur qui donne du savoir et un élève. Sur le plan pédagogique, il y en a un qui reçoit, il y en a l'autre qui donne. Et c'est Biya qui s'est présenté comme, n'est-ce pas, l'élève.
L'élève de la France.
Et donc, l'élève de la France.
On le traite comme un élève, vous dites Francis. Voilà, finalement, c'est comme
bien
ça.
Bien sûr. Bon. Il se présente comme un élève, on le traite comme un élève. Et là, du coup, c'est le professeur qui lui dit « Mais non, comme élève, t'es pas bon. T'es pas bon, t'es nul. » Et même qui était content quand il disait qu'il était élève, devient mécontent quand le professeur désigné par M. Biya lui-même vient dire que « Écoutez, mon cher élève, là, tu as des efforts à faire, tu peux faire mieux et tout. » Donc, c'est juste ce que je voulais dire, que les gens, souvent, il vaut mieux qu'ils se rappellent, n'est-ce pas, des éléments historiques
du
pour
contexte,
essayer de comprendre les situations ambiantes. C'est juste ce que je voulais dire.
Ben, merci beaucoup, Francis. Vous l'avez dit, vous l'avez très bien dit. Merci beaucoup, Francis, hein, qui rappelait cette sortie hein, du président Biya hein, dans les années 90, hein, qui avait dit « Je suis l'élève de la France en matière de démocratie ». Merci beaucoup, Francis. Bonne journée à vous. Alors, Amabi, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Amabi, hein, vous voulez également réagir hein, sur cette question. Vous avez entendu Francis hein, qui dit finalement hein, c'est Paul Biya qui a fait en sorte qu'on le traite ainsi. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord?
Je suis d'accord une partie, mais je dirais que aujourd'hui, Paul Biya avait bien fait de dire qu'il était l'élève de la France, parce que quand tu es ton meilleur élève, s'il échoue, ça signifie que toi-même tu as échoué. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'élève a dépassé le maître. Et s'il continue à mettre la pression, c'est qu'il n'a plus toutes les cartes pour pouvoir faire ce qu'il a envie de faire. Donc c'est une très bonne nouvelle pour le Cameroun. Et comme quelqu'un disait, quand tu commences à mal parler d'un président, c'est qu'il n'est plus avec vous, il est avec son peuple. Donc s'il fallait soutenir le président Paul Biya, c'était le moment.
Alors, moi-même, si je comprends bien, Amabi, votre réflexion, c'est-à-dire c'est ça veut dire que si la France commence à ouvertement critiquer un Paul Biya, cela signifie que Paul Biya travaille pour son peuple.
Voilà.
D'accord. Bon.
Donc voilà.
Bon. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Amabi, du coup? Quels seraient les actes posés par Paul Biya qui vous montreraient que, justement, il travaille davantage pour son peuple?
L'histoire nous apprend beaucoup. Et par le passé, on connaît que tous les présidents qui ont critiqué la France ont été assassinés. Et tous ceux qui travaillent pour la France...
Il ne faudrait pas qu'on assassine Paul Biya, quand même.
Voilà. Bon, pour
vous
le
craignez
moment,
vous craignez cela, Amabi?
Ce ne serait plus possible, parce que Paul Biya a bien des assises, il est bien assis. C'est pourquoi c'est difficile de le bouger. La France se met ensemble avec les États-Unis pour pouvoir le bouger. Parce qu'aujourd'hui, il a décidé de travailler pour son peuple. C'est vrai que par le passé...
Et est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'aujourd'hui, il a décidé de travailler pour son peuple, mis à part les critiques de la France?
Mais puisque la France commence déjà à le critiquer...
Oui, c'est ça. Alors voilà. Mais voilà. Concrètement, il n'y a pas d'acte qu'il a posé qui vous ferait dire qu'il travaille plus pour son peuple?
Déjà, le port de Douala a été à Bolloré, par exemple. Il y a la Total qui a perdu un contrat, le contrat au niveau de la Sonara. Et n'oubliez pas que Paul Biya avait dit le Cameroun n'est pas la chasse gardée de la France. Donc il y a des propos comme ça qui reviennent tout le temps avec les effets sur le terrain.
C'est très clair. Merci à Mabi de votre participation, hein, Mabi, hein, qui voit dans la sortie.
Je vous en prie.
D'Emmanuel Macron, le Roland hein, de la France-Afrique. Merci beaucoup à Mabi, bonne journée. On parle d'une autre brouille, direction Bamako, ou plutôt Paris, hein, puisque c'est l'ambassadeur du Mali en France hein, qui a été rappelé à Bamako. On en parle avec Mamadou. Mamadou, bonjour.
Bonjour Madame Stéphane.
Bonjour Mamadou. Alors petit rappel des faits, brièvement, hein, le Sénat a auditionné l'ensemble des ambassadeurs des pays du G5 Sahel, c'était jeudi ou mercredi je pense, mercredi plutôt, et à cette occasion, l'ambassadeur du Mali en France a fustigé le comportement, non pas peut-être de l'ensemble des soldats français, mais de quelques légionnaires qui circulent dans les rues parfois tatoués, hein, il a parlé avec leur corps tout tatoué, qui se comporteraient mal, hein, en tout cas qui se feraient remarquer dans les quartiers chauds de Bamako. Qu'en pensez-vous, Mamadou ?
Madame, est-ce que c'est une surprise, ça ? C'est pas une surprise. On a vu à Centrafrique où ces militaires y passent. Si c'est pas des petits gamins, c'est des trucs dans la ville. Il a mal dit, il a mal supprimé qu'il dit que c'est des légionnaires. Il peut dire que c'est les militaires français. Ils sont là, madame, c'est la vérité. Il a dit la vérité. Et quand on parle de ces choses-là, on voit que nos présents, c'est des marionnettes de la France. Comment que tu peux déplacer son... Il a dit la vérité, il n'a pas le droit de l'appeler, de l'envoyer Keblen Dramé ici. C'est de montrer à nous, que les gens-là, qu'on peut faire demain ce qu'on veut à ces gens-là. C'est tout. On n'a pas le droit, on ne peut pas réclamer. C'est pas normal, madame. Les militaires, là, ils sont là. Ils sont là. Même moi, j'ai les preuves. J'ai des photos que mon pote m'a envoyées. Je l'ai. Je peux montrer, vous allez voir ça partout. Ils sont là-bas. Il a dit que les légionnaires, c'est ça qu'il a trompé.
Alors finalement, si j'ai bien compris, Mamadou, finalement c'est moins la réalité hein, des propos de l'ambassadeur qui sont condamnés, hein, puisque bon an, mal an, on sait effectivement qu'ils sont vrais. C'est plutôt l'image que ça donne de l'armée.
Oui, ça donne de l'armée. Bon, on a déjà, j'ai déjà porté ces tenues-là. On est là où on est. Et regarde les mecs, ils ont 6 mois, 8 mois un endroit. Obligé à un endroit, il faut se défouler. C'est normal.
C'est pas souvent, là où il y a des casernes, il y a des bordels.
Ah oui, là,
c'est connu.
Là, tout le monde sait. C'est nos militaires, on ne peut rien faire. Et puis, excuse-moi deux secondes.
Allez-y.
Ce qui se passe à Bolivia, ce n'est pas normal. Ce qui se passe au Sénégal, ce n'est pas normal. Tout ça, on voit que des pays pas francophonie. C'est que des francophonies, il y a des coups d'État, il y a des trucs anglophones.
Il fait longtemps qu'il y a des coups d'État, je vous rassure, dans les pays anglophones aussi. Hein. Ghana.
C'est le Ghana seulement. Non, c'est Ghana qui a la démocratie, madame. Mais francophonie, c'est plutôt beaucoup.
Merci, Mamadou.
Je demande pardon à tout le monde, mais c'est mon passé que je voulais dire.
Bienvenue, ne demandez pas pardon. On vous entend mal, Mamadou, en fait. Étouffez votre voix, c'est pour ça que je ne vous garde pas longtemps.
J'ai raté les deux dents là, ça fait mal.
Merci Mamadou, bonne journée à vous. Hein. Merci Mamadou. Mamadou qui disait finalement, ce n'est pas faux. Il trouvait peut-être Mamadou une certaine. Il disait que les autorités maliennes hein, s'étaient pliées au désir français. On va écouter Symphorien. Symphorien, bonjour.
Oui, bonjour, comment allez-vous ?
Pardon. Ça va très bien, Symphorien. Vous dites qu'il y a clairement un dérapage de l'armée française à Bamako.
Oui, dérapage, parce que moi, j'ai été touché par ce que vous avez dit, j'ai entendu ça, je me suis arrêté. Je suis centrafricain. Mmh. Et donc, comme tout centrafricain, l'opération Barracuda, qu'on connaît en 79 jusqu'à nos jours, je vous assure, les militaires français, je dis bien les militaires français, ça n'engage que moi, et puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont me reconnaître, ils ont des attitudes envers nos populations qui sont indignes de l'armée française. Je suis désolé. La France se vante d'une grande puissance et compagnie. On voit à la télé des images. Je vous assure, quand ils arrivent chez nous, ou chez nous, sur le continent africain, c'est la voie à tout et n'importe quoi. Je dis pas qu'avant l'arrivée des militaires français en Afrique, il n'y avait pas, entre guillemets, de prostitution, mais là, ils s'en vantent et ils font n'importe quoi. Regardez même, moi, j'encourage les hommes politiques africains, ils sont fiers toujours de dire qu'ils sont hommes politiques, mais ce que l'ambassadeur du Mali a fait, c'est une très bonne chose. Je souhaiterais que d'autres ambassadeurs, puisque les ministres et les présidents, ils sont tous des trouillards, je souhaiterais qu'il y ait des gens qui disent aussi la vérité. Parce que nous, on ne peut pas se défendre. Vous savez, vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement en Centrafrique, non ?
Mais comment avec, expliquez-vous les militaires hein, je pense qu'il y a des accusations hein, de pédophilie. Les militaires, d'ailleurs, je pense, ont été blanchi, ou en tout cas, il y a eu un non-lieu, il n'y a pas eu de jugement, je crois.
Mais voilà. Mmh. Mais voilà.
Alors que, effectivement, les comportements des militaires en Centrafrique étaient particulièrement documentés par des journalistes qui avaient fait des reportages.
C'était des journalistes nordiques, je crois que c'était des Suédois ou des Danois. Donc, il y a une trouille déjà de certaines autorités.
Et comment vous expliquez, Symphorien, excusez-moi, Symphorien, j'accélère un peu parce que vous voulez prendre M. Kwame. Après, comment vous expliquez cette réaction de Bamako qui, tout de suite, rappelle son ambassadeur et dépêche son ministre?
Parce que ils ont une pression, et puis on leur dit il faut couper, il faut arrêter de parler comme ça parce que on n'a plus d'hommes d'État. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il n'y a plus d'hommes d'État. Il y a une époque qui pouvait pas faire ça. À l'époque des anciens présidents africains qui étaient des militaires, on va pas les citer. Vous savez bien de qui je parle. En Afrique centrale, Mobutu et compagnie, tout ça. Ces militaires français ils se tenaient tous à carreau parce qu'il y avait des hommes d'État. Il y avait des hommes fermes. C'est aussi ça. Je vous assure, il y a beaucoup de parvenus maintenant dans tous les gouvernements en Afrique francophone. Et ils laissent faire. C'est et il faut clair. Dire les choses. Ils n'ont aucune formation. Ils ont des titres de ministres, de généraux, de quoi. Mais il n'y a aucune fermeté. Nous, en France, on respecte la loi française, on respecte tout. Mais ils arrivent chez nous, ils ne respectent rien. Même le militaire capable de passer le CE1, il se comporte avec nous comme... Regardez, même...
Merci, ça ne fait rien.
Mais voilà.
On a compris, Symphorien, effectivement, on pourrait écrire beaucoup sur le comportement des militaires français en Afrique. La France, les Christian Cambon de la commission des affaires étrangères du Sénat estimait que ces propos de l'ambassadeur du Mali en France portaient atteinte à l'image de l'armée. Pour finir, Monsieur Kwame, bonjour.
Oui, bonjour ma grande Stéphanie.
Bonjour mon grand monsieur Kwame. Alors, je vais vous demander d'être rapide monsieur Kwame, on a juste une minute. Vous voulez parler de l'agression, peut-être pas, mais bon d'un jeune ivoirien qui est sorti sur une civière du salon de l'agriculture. Un jeune proche de Guillaume Soro
Oui oui. Même s'il est proche de Guillaume Soro, c'est un ivoirien. Il est proche de RDS, c'est un ivoirien. Je déplore ces actes de barbarie. Parce que jusque-là, le gouvernement ivoirien n'a même pas dit un mot sur ce jeune-là. Et il est toujours dans le coma. C'est inadmissible. Nous sommes dans un pays de droit. Ça ne doit pas se faire. Ils prennent leur barbarie d'Abidjan et ils débordent
ça. Est-ce que vous pouvez rappeler ce qui s'est passé, France. M. Kwame? Ça s'est passé au salon de l'agriculture. Alors, il y avait le ministre Adjoumani, je crois, qui défilait. C'est bien ça?
Mais il a été interpellé, le jeune lui a posé une petite question. Vous êtes content d'être dans un pays de liberté.
Il a voulu faire comme l'activiste camerounais.
Le camerounais, voilà.
Et les gardes du corps d'Adjoumani l'ont frappé.
Il a fait ça à Macron, le président français.
Voilà.
Et il n'a pas été tabassé. Et leur côté, ça va tabasser quelqu'un jusqu'à lui casser le cou. C'est inadmissible.
Merci. Merci, monsieur Kwame. Je pense que le message est passé, monsieur Kwame, qui appelait d'ailleurs, comme je crois que Guillaume Soro l'a fait également, qui appelle à une réaction des autorités françaises, comme cela s'est passé à Paris. Vous l'avez compris, on arrive à la fin de cette émission. J'ai un petit salut à monsieur Koulibaly, qui voulait encore intervenir sur le Mali, qui dit: je ne suis pas d'accord avec la convocation de l'ambassadeur du Mali. Et Diomo de Beng, vous voulez parler du processus de recensement en Côte d'Ivoire, selon lui. C'est une très mauvaise chose. Je fais un petit coucou à Brenny Kofi qui nous envoie régulièrement des messages sur WhatsApp. On se retrouve lundi pour une nouvelle édition du Journal des Auditeurs. D'ici là, prenez grand soin de vous et de vos proches à l'écoute d'Africa Radio, la seule radio panafricaine. Bon week-end.